VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 août 2018. En direct de Washington, Idriss Assedoudia
et Anne Albertson. Disparition hier d'une grande figure de la musique américaine et du mouvement des droits civiques, la reine de la soul, Aretha Franklin.
Nous lui rendrons hommage dans cette édition. En attendant, les autres titres de l'actualité.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta réélu, l'opposition crie toujours à la fraude.
Au Niger, on signale plus de 19 000 personnes déplacées depuis janvier dans l'ouest frontalier du Mali.
Ici aux États-Unis, des centaines de journaux ont défendu hier la liberté de la presse face aux attaques répétées du président Donald Trump.
Le Vatican exprime sa honte et sa douleur suite à la publication d'un rapport sur des prêtres pédophiles aux États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, pendant que le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta reçoit déjà des félicitations, l'opposition continue de crier à la fraude et promet de combattre par tous les moyens démocratiques. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Les partisans de Soumaïla Cissé déclarés perdants de la présidentielle au Mali refusent d'accepter que leur leader ne sera pas président. Ils viennent de voler nos voix, on ne peut pas accepter ça, lance Abdraman Sow, un technicien en informatique de 26 ans qui se prépare à manifester. Dans le même temps, Emmanuel Macron a appelé son homologue malien pour le féliciter de sa réélection. Il lui a aussi réitéré l'engagement de la France à se tenir aux côtés des autorités et du peuple malien pour surmonter le défi de la lutte contre le terrorisme et favoriser l'investissement et le développement économique. L'ancien président François Hollande a lui aussi félicité Ibrahim Boubacar Keïta, l'encourageant par ailleurs à rassembler les Maliens dans le cadre de l'accord de paix et à assurer à tous la sécurité et le développement.
Au Niger, plus de 19 000 personnes déplacées depuis janvier dans l'ouest frontalier du Mali. Cette zone, Eric Manirakiza, est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes.
D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, ces déplacés internes ont fui les attaques des groupes armés non étatiques et les conflits intercommunautaires dans la région de Tillabéri. OCHA prévient que le nombre pourrait encore augmenter, notamment en cas de détérioration de la situation. Les habitants de 74 villages non encore affectés situés le long de la frontière avec le Mali sont considérés à haut risque de déplacement, signale l'agence onusienne. Un corridor humanitaire a permis aux PAM et à des ONG d'acheminer fin juillet 96 000 tonnes de vivres à 5 570 déplacés installés dans deux localités d'accueil situées dans la zone rouge. Le gouvernement a décrété en mars 2017 l'état d'urgence qui a été reconduit récemment. Des opérations militaires conjointes sont en cours dans la région pour réduire les capacités de nuisance des groupes djihadistes armés très actifs dans la région de Tillabéri.
Le ministre tchadien de la Justice a annoncé que l'ex-chef rebelle Abdelkader Babalade, emprisonné au Tchad depuis 2015, sera bientôt jugé. Le ministre a promis le transfert de Babalade d'une prison du centre vers N'Djamena pour son jugement et des soins à Abdourahmane Dia.
Le garde des Sceaux, Djimet Arabi, a indiqué que des dispositions sont déjà prises pour l'évacuation de Babalade sur N'Djamena pour des soins et dans le même temps, son dossier est prêt pour un jugement. L'inquiétude était grandissante à propos de son état de santé après son transfert d'une prison du nord du pays à une autre prison à 300 km de N'Djamena, selon le représentant tchadien de la Fédération internationale des droits de l'homme, Dobiang Asingar. Babalade est très malade et vomit du sang dans son lieu de détention à la maison d'arrêt de Moussoro, dans le centre-ouest du Tchad, a indiqué M. Asingar, qualifiant son état de santé de critique. Entré en rébellion au Darfour en 1998, Babalade est arrivé en Centrafrique en 2008, où il disait vouloir libérer les peuls. Arrêté en décembre 2014 en Centrafrique, Babalade a été extradé vers le Tchad en janvier 2015. Il est inculpé de 10 chefs d'accusation, dont détention illégale d'armes, association de malfaiteurs et incendie volontaire et viol.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, quelques 350 journaux ont lancé une défense coordonnée et sans précédent de la liberté de la presse en riposte aux attaques fréquentes du président Donald Trump contre les médias. Ils ont publié des éditoriaux sous le mot d'ordre « enemy of none », c'est-à-dire « ennemi de personne ». M. Trump ne cesse dans ses attaques de qualifier d'ennemi du peuple la presse, qu'il a accusé à plusieurs reprises de disséminer des fake news, des informations fausses. Hier encore, il a écrit dans un tweet « Les médias fake news sont le parti d'opposition. C'est très mauvais pour notre grand pays. Nous sommes en train de gagner. »
La Russie a qualifié de destructrice et inutile les dernières sanctions américaines contre des compagnies russes, chinoises et singapouriennes. Washington a imposé ces sanctions mercredi en leur reprochant d'aider Pyongyang à éviter les sanctions internationales. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, ces mesures sont prises au moment où des efforts internationaux communs sont requis pour un règlement du dossier nord-coréen et Moscou d'avertir que ces sanctions pourraient compromettre les pourparlers sur la dénucléarisation.
Les États-Unis ont menacé hier d'imposer de nouvelles sanctions à la Turquie si le pasteur américain Andrew Brunson n'est pas libéré. De son côté, Ankara a tenu à rassurer ses investisseurs ébranlés par l'effondrement de sa monnaie. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Berat Albayrak, ministre turc des Finances, a assuré que son pays émergerait encore plus fort de la crise de la livre turque dont la valeur a fondu de 40% par rapport au dollar cette année. Lors d'une téléconférence avec des investisseurs, il a affirmé que la Turquie n'est pas en contact avec le Fonds monétaire international pour un éventuel plan d'aide. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, a promis à Ankara que son pays va y investir 15 millions de dollars. Une économie en difficulté alors que les tensions avec Washington ne montrent pas de signe d'apaisement. Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, a averti que les États-Unis vont prendre des sanctions supplémentaires contre Ankara si Andrew Brunson, un pasteur américain détenu en Turquie, n'est pas libéré. Le pasteur Brunson a été placé le mois dernier en résidence surveillée après plus d'un an et demi d'incarcération. Il est accusé d'espionnage et d'activités terroristes. Cette affaire est à l'origine de l'escalade des tensions entre Ankara et Washington qui ont imposé des sanctions réciproques et haussé leurs tarifs douaniers respectifs.
Le Vatican a publié hier soir un communiqué exprimant sa honte et sa douleur et condamnant les abus sexuels subis par un millier d'enfants pendant des décennies, selon le rapport d'un jury populaire de la Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Le pape François, peut-on lire dans ce communiqué, est du côté de ces victimes de prêtres prédateurs dont les crimes ont été couverts par l'Église catholique de cet État. Les abus décrits dans le rapport sont pénalement et moralement répréhensibles et ont volé aux victimes leur dignité et leur foi, déclare le Vatican, qui veut que les coupables et ceux qui les ont couverts répondent tous de leurs actes.
Torrent d'hommages ici aux États-Unis et dans le reste du monde après l'annonce de la mort d'Aretha Franklin hier à Détroit à l'âge de 76 ans. Le monde de la musique, les artistes et les politiques ont été unanimes à reconnaître la place unique qu'occupera à jamais Lady Soul, the Queen of Soul, la reine de la soul, au panthéon de la musique moderne américaine, Raissa Gironda.
Le président Donald Trump a salué une femme exceptionnelle qui a bénéficié d'un merveilleux bienfait de Dieu, sa voix. L'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle écrivent que chaque fois qu'elle chantait, ils avaient droit à une lueur divine. « Je prie pour l'âme d'or merveilleuse », a déclaré Diana Ross, qui incarne, comme elle, l'âge d'or de la soul. Aretha Franklin a remporté 18 Grammy Awards, dont les deux premiers en 1967 pour Respect. Elle était aussi une pianiste hors pair et sera la première femme élue au Rock'n'Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique populaire. Engagée dans la cause des droits civiques des Noirs et des femmes, elle a effectué une tournée avec le pasteur Martin Luther King et chantera lors de ses funérailles après son assassinat en 1968. Ironie de l'histoire, Aretha Franklin a aussi chanté lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, premier président noir des États-Unis.
For the bus stand, but while I'm riding, I think of
I say a little prayer for you, Aretha Franklin, la reine de la soul qui nous a quittés. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute écho, Eric Manera Kiza.
Le gouvernement du Ghana va injecter environ 103 millions de dollars pour la construction de nouvelles routes en 2018. Le montant servira également à la réhabilitation de routes anciennes dans la région Ashanti. Elle constitue la principale zone de production de cacao et regorge d'importantes réserves minières. Le président Nana Akufo-Addo a aussi assuré que Kumasi sera le pivot central de l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire du pays. Nairobi va construire à Mombasa un téléphérique pour 40 millions de dollars. Le projet couvrira le canal de Likoni qui sépare la vieille ville de Mombasa sur une petite île d'Omvita et la zone métropolitaine. Les deux localités sont reliées par un pont, un chemin de fer et des ferries. Quelques 300 000 personnes et 6 000 véhicules franchissent au canal quotidiennement. Cette liaison comprendra 22 téléphériques pour transporter 38 passagers par cabine et réduire à 2 minutes le temps mis pour traverser contre 10 minutes pour les ferries. Le déficit commercial ougandais a atteint près de 191 millions de dollars à fin juin 2018. En émoi, il a augmenté d'environ 30%. De fait, explique cette situation. D'abord, le recul des exportations de l'or, du maïs, des métaux et produits de base. Ensuite, la hausse des importations d'articles manufacturés divers, de produits pétroliers, de produits végétaux, d'animaux, de boissons, de graisses et d'huile.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, élimination du Nigeria.
Eh oui, les Nigériennes battues 2-1 par les Espagnols hier en quart de finale. Aitana avait ouvert le score pour la Roja et Patrie avait doublé la mise juste avant la pause. Efi avait réduit le score en seconde mi-temps, mais insuffisant pour les Nigérianes. La France, pays organisateur, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant difficilement sur pénalty la Corée du Nord, 1-0. À suivre ce vendredi les deux autres quarts de finale, Angleterre, Pays-Bas et Allemagne, Japon.
La France au sommet du classement FIFA.
Plus 6 places pour les champions du monde qui sont premiers au classement FIFA grâce aux nouvelles règles. La Belgique gagne une place pour se retrouver deuxième. Le Brésil éliminé en quart de finale est troisième. Très forte progression des Croates qui gagne 16 places pour se retrouver 4e. L'Argentine, moins 6 places, est 11e. L'Allemagne, éliminée au premier tour de la Coupe du Monde, perd 14 places et se retrouve 15e. Tunisiens et Sénégalais sont les premiers Africains de ce classement, 24e ex aequo.
Le risque de suspension s'éloigne pour la Fédération ghanéenne de football.
Et oui, un accord a été trouvé pour éviter la dissolution de la Fédération de football du Ghana en proie à un scandale de corruption. C'était hier, lors d'une rencontre à Zurich entre des représentants officiels et le président de la FIFA, Gianni Infantino. La FIFA avait menacé de suspendre la GFA, estimant que les mesures prises par la justice ghanéenne visant à la dissolution de la fédération constituaient une ingérence. Hier, une rencontre s'est tenue à Zurich au siège de la FIFA entre d'un côté M. Infantino, accompagné de la secrétaire générale, la sénégalaise Fatma Samoura, et de l'autre une délégation ghanéenne conduite par Isaac Assimia, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a été convenu que la FIFA va mettre en place un comité de normalisation de la fédération.
La Ligue a justement qui s'exporte aux États-Unis.
Un match du championnat d'Espagne va être délocalisé aux États-Unis. Une première a annoncé hier la Ligue espagnole de football, s'attirant aussitôt les foudres du syndicat des joueurs et des groupes de supporters irrités par, je cite, cette aberration. Selon le site internet du quotidien espagnol El País, la Liga a pour projet d'organiser ce match dès cette saison qui débute ce vendredi. L'affiche en question impliquerait a priori soit le FC Barcelone, soit le Real Madrid.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu en second mandat de 5 ans à la tête du pays. Selon les résultats officiels provisoires, il a obtenu 67% des voix contre 33% pour Soumaïla Cissé. Les partisans de l'opposant rejettent les résultats et promettent de les contester par tous les moyens démocratiques. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Bamako le journaliste Alexis Kalemri.
Jusqu'au premier tour, en tout cas, c'était une surprise dans ce sens que, au vu de tout ce qui se passait dans la pré-campagne, on se serait dit que ça ne serait pas facile et que ce n'était pas évident.
Il a obtenu 67% des voix selon les résultats officiels provisoires. C'est moins qu'en 2013 et un taux de participation également très faible. Qu'est-ce que cela peut signifier pour ce président à l'entame de son second mandat?
Oui, deux choses. Effectivement, pour son premier mandat, il a eu 77%. Il y avait une forte attente, il y avait beaucoup d'espérance et de façon générale, les espoirs ont été déçus. Cette fois-ci, pour beaucoup de gens, la cause est déjà entendue, ce qui a fait que beaucoup ne se sont pas déplacés et à la limite, on ne voyait pas d'alternative. Donc, je pense que oui, il y a une désaffection générale qui a fait que les gens ne se sont pas déplacés. Et au deuxième tour, pour beaucoup de gens, la cause est déjà entendue. En tout cas, les partis n'ont vraiment pas mobilisé, ni au premier tour d'ailleurs. Donc, pour beaucoup, il n'y avait plus d'enjeu. Pour d'autres, on s'est battu pendant le premier mandat, on n'a pas eu satisfaction. Et voilà, donc, pour eux, il n'y a pas un nombre de changements. C'est pour ça que je pense à la majorité, ça n'a pas bougé.
Il va avoir pratiquement les mêmes défis. Je pense notamment à la mise en application de l'accord d'Alger avec les groupes armés. Il y a également la crise économique.
Pour réussir tout cela, il y a un nouveau défi qui s'ajoute, qui est celui de la réconciliation et du dialogue national. Il faut qu'il soit capable de parler avec et ses adversaires et tous ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont été neutres.
Le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, crie à la fraude et estime avoir gagné le second tour. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une crise post-électorale au Mali?
Non, je ne crois pas. La spécificité du Mali, ce sont tous ces ressorts sociaux. Vous avez les religieux, vous avez les castes, les griots qui ont commencé toute la médiation, je dirais même au-delà de la médiation, toute la pression sociale pour qu'on aille à la calmie. Je pense que même s'il y a soubresaut, ça va rester dans le verbe et ça n'ira pas loin.
Le journaliste malien Alexis Kalemri.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Bénin, 250 millions de francs CFA, c'est le montant de la caution que pourrait désormais payer tout candidat à une élection présidentielle selon une proposition de réforme du code électoral. Les détails avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
De 15 millions de francs CFA en 2011 et 2016, le montant de la caution à payer par tout candidat à l'élection présidentielle au Bénin pourrait désormais passer à 250 millions de francs CFA. La proposition qui émane des députés de la majorité présidentielle a déjà pris l'aval de la commission des lois. Il ne reste que le vote en plénière pour rendre cette réforme effective. Pour le député Guy Mitokwe, membre de la commission des lois, cette réforme est une véritable incongruité.
Gérer une république, je pense que c'est pas faire des calculs d'épicier. On ne peut pas confier la tâche d'être président qu'aux riches pour que les seules choses qui puissent compter puissent être de l'argent. Pour moi, ce n'est pas une réforme, c'est une incongruité.
En 2011, les députés avaient déjà voté une augmentation de la caution à la présidentielle. 100 millions était la somme proposée contre 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 250 millions reste une somme colossale. Même pour certains partis politiques de la majorité présidentielle, une telle caution ouvre la porte à toutes sortes de personnes. Lotte Huynou est le président du Parti des Valeurs Républicaine.
Il y a des gens sérieux pour gouverner nos États, mais puisqu'il n'y a pas de l'argent, il ne peut pas compétir. Cette réforme-là ne va pas prospérer. Ça va faire beaucoup de mécontents dans le pays. 250 millions. Il y a des renégats, il y a des gens qui constituent des gangrènes dans la société, mais puisqu'ils ont de l'argent pour envoyer les 250 millions, ils trouveront des milliards pour acheter les consciences et malheureusement, ils seront alors portés à la tête du pays.
Beaucoup comptent sur la clairvoyance des députés pour barrer la voie à une telle loi discriminatoire pendant la plénière. D'autres, par contre, estiment que les députés ont appris à voter des lois par achat de conscience. Le député Gérard Gonocchi estime qu'il n'y a pas au Parlement des députés qui votent de façon fantaisiste sans tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation.
Ce serait très malsain. Prendre l'argent avant d'exprimer mon vote, là, je n'existe plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement. Les lois, j'analyse selon ma libre conscience et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Les jeunes seraient les plus gros perdants de ces réformes qui s'opèrent sur le plan politique. En effet, quel jeune pourrait trouver 250 millions de francs CFA dans un pays où le SMIG est à moins de 50 000 francs? Le sociologue Raymond Outaï pense que cela s'explique par le fait que la jeunesse béninoise, depuis des lustres, se laisse acheter au plus offrant.
Quand les jeunes se lèvent là, ils disent, nous appelons telle personne avec un gars, parce que juste, on les a donné de l'argent pour aller parler sans conviction. Parce qu'il y a de l'argent, il faut qu'aujourd'hui, on aille dire ceci à la télé pour, après avoir distribué un peu aux gens, que ça réserve, qu'on prenne le reste. C'est décevant.
L'augmentation de la caution concerne aussi les élections législatives. Il est proposé que chaque liste de candidature paye désormais 200 millions de francs CFA. L'idée serait de jeter un coup de balai dans le rang des partis politiques qui, à la date du 30 mai 2017, étaient déjà au nombre de 106 régulièrement enregistrés. C'est sans compter avec les dizaines autres naviguant dans l'illégalité. Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, certains opposants refusent d'aller aux élections dans un système qui, selon eux, garantit d'avance la victoire du pouvoir actuel. Ils exigent entre autres la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qu'ils jugent inféodée au pouvoir en question. Eddy Sango a joint le leader de l'UDPS, le peuple, Valentin Moubaké.
Il ne faut pas que les Congolais ou les observateurs prennent l'abstinence de M. Kabila comme un cadeau. Il n'a pas donné de cadeau. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. C'est parce que nous nous sommes élevés contre ces tentatives que M. Kabila a finalement reculé. Mais le problème n'est pas résolu en ce moment-là. M. Kabila a renoncé à briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, M. Kabila peut être considéré comme un président démissionnaire. Et comme il est établi que aussi longtemps que le pouvoir de M. Kabila sera là, avec la manipulation de la CENI, nous n'aurons jamais des élections libres, démocratiques et transparentes au Congo. Nous nous militons pour qu'il y ait des élections en dehors de ce pouvoir actuellement en place.
Vous exigez comme tout le monde la passation pacifique du pouvoir, mais comment y arriver si on ne va pas aux élections?
Nous exigeons de bonnes élections, pas une parodie d'élections. Donc ce n'est pas un cadeau que nous exigeons. Nous voulons donc la transparence du processus électoral. Malheureusement, dans le processus en cours, que ce soit la machine à tricher, à voler les voix, que ce soit le fichier électoral corrompu, le maintien en prison des prisonniers politiques, la partialité et le manque d'indépendance de la CENI vis-à-vis de certains acteurs politiques, tout ça sont des facteurs qui entachent la transparence de ce processus électoral.
Mais y revenir serait accorder plus de temps au président Joseph Kabila à la tête de la RDC quand même.
La solution minimale qui ne coûte que la volonté politique réside en 4 points. Restructurer la CENI, une exigence de l'accord global inclusif. Et dans le 1, vous avez la restructuration et l'audit externe de la CENI. 2, élaguer les machines à voter qui sont des machines à voler les voix. 3, nettoyer le fichier électoral qui est corrompu. 4, libération des prisonniers politiques et les activistes de mouvements citoyens qui sont contraints à l'exil. Mais si cette solution minimale trouve des réticences, eh bien nous allons à l'option optimale qui est celle du nouvel ordre politique dans ce pays qui va assurer des élections libres, transparentes et apaisées, qui va remettre le Congo sur les rails et ça prendra le temps que ça prendra pour y arriver.
N'êtes-vous pas un peu isolé dans la mesure où on a vu d'autres leaders de l'opposition comme vous déposer des candidatures pour la présidentielle?
Ces leaders de l'opposition qui sont allés dans ce processus traduisent le drame du Congo. Ça veut dire une classe politique médiocre. Ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le processus. Le processus est entaché d'irrégularités. Ils appellent même cela des préalables, mais ils y vont quand même. Leurs préalables n'ont jamais été accomplis. La problématique ne réside pas dans la désignation des candidats communs ou uniques. La problématique actuelle réside dans la transparence du processus électoral.
Valentin Moubaké, leader de l'UDPS Le Peuple, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Retour sur la mort de la reine de la soul, Aretha Franklin, interprète de grands succès comme Respect, un morceau composé et interprété d'abord. on l'oublie très souvent, par le grand Otis Redding. Aretha est décédée hier chez elle à Détroit, à l'âge de 76 ans. Avec Idris Fall, le parcours d'une étoile dans la longue lutte de la communauté africaine-américaine ici aux États-Unis pour le respect de ses droits civiques.
La reine de la soul, Aretha Franklin, avait été diagnostiquée d'un cancer en 2010 et recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Detroit. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes du mouvement pour l'égalité des Noirs et des femmes aux États-Unis. Ce tube composé par Otis Redding lui offrira en 1967 ses deux premiers Grammy Awards sur les 18 qui vont jalonner sa carrière. Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, Aretha Louise Franklin est la fille d'un prêcheur baptiste et d'une chanteuse de gospel. Ses parents vont s'installer à Detroit, dans le Michigan. La maison familiale accueille souvent des musiciens comme Mahalia Jackson et le pasteur Martin Luther King, emblème du mouvement des droits civiques des Noirs. Le décor est déjà planté pour l'enfant qui apprend seul le piano et chante à l'église. À 14 ans, elle enregistre son premier titre. Elle signe en 1960 avec Columbia, mais ne connaîtra la gloire qu'avec son premier album avec Atlantic en 1967. I Never Loved the Man. S'enchaîner, se multiplier et toujours plus envoûtant et plus entraînant les uns les autres. Aretha Franklin est restée toute sa vie une femme noire, engagée. Elle a chanté à l'enterrement de Martin Luther King, assassiné en 1968 et amie personnelle de son père. En 2005, elle a reçu du président George W. Bush la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. Et en janvier 2009, elle a aussi chanté pour l'investiture de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, pendant une cérémonie chargée d'émotions. Amazing Grace, un de ses titres fétiches.
Afrique en direct de Washington, voilà c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Dave Magnus. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.